parole de Dieu. Et bien des fois, les gens ont de la misère à recevoir parce que c'est presque trop simple. Il y a des gens qui me disaient, comme ça tu me dis là, que si moi je crois là, que Jésus est mort sur la croix, je le confesse avec ma bouche, là, ça prend juste ça pour être sauvé. Oui. La parole de Dieu dit dans Romains 9, 9, 10, que si tu crois dans ton cœur et puis que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort sur la croix puis Dieu l'a ressuscité des morts, bien c'est en croyant du cœur puis en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Moi, j'aime que Dieu dise que c'est en croyant du cœur. Parce que même si notre tête a le plein de choses négatives, des doutes, toutes sortes de choses, il y a une chose qui est importante, c'est que Dieu n'a pas dit « en croyant de la tête ». Merci Seigneur. Ma tête, elle peut penser à toutes sortes de choses, mais dans mon cœur, je le sais. Je le sais que Dieu est vivant. Je le sais que Dieu est puissant. Je le sais que Dieu, il m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils. Amen. Alors, vraiment, c'est dans la simplicité. Et puis, c'est tellement simple que des fois, les gens vont dire, c'est trop simple. On dirait que les gens, ils ont tellement été habitués avec les voix mystérieuses de Dieu. Puis, oh, Dieu est insondable. Puis, ses voix. Puis, on dirait qu'il faut que ça soit mystérieux. Puis, quand tu arrives, puis tu dis, c'est la simplicité. Si tu acceptes ça, tu es sauvé. Et puis, comme j'ai déjà dit à quelqu'un, moi, j'ai fait la prière du salut quasiment de force. La personne était toute seule avec moi dans une vanne, puis elle dit, « Il faut que tu confesses! » Je l'ai presque faite pour m'en débarrasser. Mais ça faisait tellement longtemps que je criais à l'aide de Dieu, amen, que je ne reconnaissais pas que c'était si simple que ça. Mais ça ne l'a pas empêché que j'ai été sauvée pareil. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Puis la lumière est descendue, puis j'ai commencé à changer après ça. Amen. Mais c'est dans la simplicité. Voyez-vous, dans le psaume 107, verset 20, la parole de Dieu dit, « Il envoya sa parole et les guérit. » Ça prend juste la parole de Dieu pour avoir la guérison. Amen. Et il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Amen. Le monde va dire aussi simple que ça. Oui, la parole de Dieu, elle a été faite chair en Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Jean 1, 14, que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, comme le Fils de Dieu. Amen. Et puis, c'est aussi simple que ça. Il envoya sa parole. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre avec Dieu, c'est que dans la simplicité, il y a la puissance de Dieu. Et je vais juste passer à quelques exemples. Voyez-vous, quand Élie le prophète a prié dans 1 Roi 18, si on tourne rapidement, parce que je veux vraiment établir mon point ce matin pour me rendre à mon autre point. Gloire à Dieu. Amen. Dans 1 Roi 17, ça dit qu'il n'y avait pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Puis Dieu avait dit à Élie, « Dis au roi qu'il va pleuvoir. » Amen. Ça dit au verset 41, on va passer par 41, « Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Amen. Il y a rien que lui qui l'entendait. Anyway. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Achab monta pour manger, pour boire. Et Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « 7 fois, retourne. » Comme j'ai prêché, ça doit être dimanche. 7 fois, il a retourné. Puis il revenait toujours, pendant 6 fois au moins, avec la même réponse. Il n'y a rien. Pourtant, Élie, lui, disait, il y a un bruit qui annonce la pluie. À la 7e fois, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, maintenant, va dire à Achab, attelle puis descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Une chose que j'avais déjà prêchée à propos du prophète Élie, c'est que dans les petites choses, il voyait la puissance de Dieu. Amen. Il y a juste un petit nuage de rien, grand comme la paume de la main. Puis c'est suffisant pour lui pour qu'il sache que la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Ça doit faire bien longtemps qu'ils n'ont pas vu un petit nuage. Ça fait 3 ans et demi qu'il y a de la sécheresse, puis il n'y a pas plu. Amen. Mais dans un petit nuage de rien, il est capable de voir que la puissance de Dieu va se manifester. Moïse, Jésus, Dieu il a dit, « Qu'est-ce que tu as en main, le bâton? » Il dit, « Jette-le à terre, c'est devenu un serpent. » Il l'a repris, c'est devenu le bâton. Il dit, « Va maintenant, puis va délivrer mon peuple. » Dans une petite chose. Écoutez, Moïse connaît la puissance de l'Égypte. Il a été élevé dans la maison de Pharaon. Moïse connaît. Il sait qu'il arrive là, puis écoutez, il n'y a pas un qui peut connaître plus la puissance de l'Égypte. Amen. C'est comme quelqu'un qui aurait été malade longtemps, puis quelqu'un arriverait puis dirait, « Tu connais-tu telle maladie? » Quand la personne, elle a eu ça pendant 2 ans de temps. Il n'y a pas une qui connaîtrait plus ça que la personne qui l'a passé au travers. Moïse a été élevé dans cette puissance-là d'Égypte. Il connaît, il le sait, que tu as juste un ordre à donner, puis il va disparaître de la map. Amen. Surtout qu'il est recherché pour meurtre. Il a tué un Égyptien, v'là 40 ans. Mais ça ne fait rien. Et il connaît la puissance. Mais avec son bâton, il part. Et puis, il sait que même si ça a l'air minime, la puissance de Dieu est là. Même si le nuage a l'air minime, la puissance de Dieu est là. La Samarie était environnée par une grosse armée qui empêchait les gens d'apporter la provision. 4 lépreux. Dieu va souvent utiliser quelque chose qui a l'air faible à nos yeux, vulnérable. 4 lépreux sont à la porte de la ville. Puis Dieu délivre une ville au complet de la pauvreté avec 4 lépreux. Des fois, Dieu va prendre quelque chose de tellement simple, tellement vulnérable, mais il faut comprendre que Dieu est puissant. La puissance est en arrière. Puis Dieu aime à démontrer comment il est le Dieu tout-puissant. Il le dit à Abraham. Il dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Puis j'ai dit que je te bénirai, puis toi et ta descendance, et je suis ce que je suis. Amen. Marie, une petite fille, vierge, et puis un bébé. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple qu'un petit bébé? Amen. Et puis, il y avait une chose que je voulais qu'on voit ce matin aussi, à propos d'un petit bébé comme Jésus. Mais aussi simple que ça, mais dans ce petit bébé-là, il y avait toute une puissance qui allait se dégager sur la terre. Amen. Dans les petites choses, des fois les gens vont dire, « Oui, mais c'est juste des écritures de la Bible. C'est juste écrit. » Écoute, aussi simple que ça peut paraître, le Seigneur Dieu, il a dit, « J'ai envoyé ma parole et je t'ai guéri. » Amen. Et Jésus a été la parole faite chair, et c'est exactement ça qu'il a fait à la croix. Par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Alors vraiment, vraiment, c'est aussi simple que ça, mais il y a de la puissance. Amen. Il y a de la puissance en arrière de cela. Et puis, juste pour vous montrer le spirituel puis le charnel à propos de Jésus. Dans Luc 2, je suis sûre que vous allez aimer ça. Dans Luc 2 et verset 25, la parole de Dieu dit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. » Alors, c'est un homme guidé du Saint-Esprit. « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. » Alors, il y a juste un couple qui arrive devant lui avec un petit bébé pour accomplir ce que la loi dit. C'est très simple. Amen. « Il l'a reçu dans ses bras et il a béni Dieu, puis il a dit, « Maintenant, Seigneur, Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il est capable de voir dans un petit bébé Jésus. OK? On va aller dans Matthieu 12. Matthieu 12. Et puis, je vais lire à partir du verset 22. Ça dit, « Alors on lui amena, à Jésus, un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce pas là le fils de David? » Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. » Alors, il est après leur prêcher ici. Ce que je veux qu'on voit ce matin, c'est que Jésus, adulte, guérissait un homme qui était sourd et muet, aveugle. Puis les pharisiens, les religieux charnels, sont même pas capables de reconnaître que c'est Jésus. Mais Siméon, rempli du Saint-Esprit, voit un petit bébé, puis il le reconnaît, puis il dit c'est Jésus. Juste pour vous dire la différence entre le charnel puis le spirituel. Juste pour vous dire comment qu'il y a une différence quand tu es spirituel, puis tu comprends les choses de l'esprit, puis quand tu es charnel, puis tu vois absolument rien. C'est-tu assez bon? Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que si on se penche du côté spirituel, puis on sait reconnaître les choses de l'esprit, on va voir que même si dans une parole, dans une écriture, dans un enseignement de la parole de Dieu, on peut voir la puissance de Dieu. Siméon, juste avoir un petit bébé, il était capable de dire, « Ah! Maintenant, je peux mourir en paix. Mes yeux, ils ont vu le salut. Mes yeux, ils ont vu le sauveur dans un petit bébé. » Il faut être capable de voir dans les petites choses les grandes choses de Dieu. Si on ne s'habitue pas à voir dans les petites choses, moi, souvent, j'aime à m'émerveiller de toutes les petites choses que Dieu peut faire. Juste des petites choses. J'avais à cœur de faire quelque chose ce matin, puis j'ai dit à Pastoréal, j'ai dit, va voir, on dirait qu'en dedans de moi, ça me disait qu'une telle chose était en train de se passer. Il est allé voir, et puis c'était exactement ça. J'aime ça, savoir que Dieu me parle, que j'ai une relation avec lui, qui est normale, puis je suis normale, amen. C'est pas un Dieu difficile à atteindre, mais c'est un Dieu qui veut tellement avoir une relation avec ses enfants et démontrer sa puissance. Reconnaître dans les petites choses la grandeur de Dieu. Tant qu'une personne va rester charnelle. Il y a des gens, malheureusement, qui ont beau être dans la parole de Dieu, puis on dirait qu'ils demeurent charnels continuellement. On dirait que tu es obligé quasiment de les assommer qu'une brique, puis de dire, t'as pas remarqué que Dieu vient de faire ça dans ta vie? T'as envie de... Amen. Et puis la personne, ah, oh, tu penses? C'est encore pire. Parle pas au moins. Amen. Mais Dieu est dans la simplicité. Dieu se démontre puissant. Dieu, il est comme ça. Amen. Dieu dans la simplicité. Amen. Il aime à démontrer sa puissance. Il va prendre un couple âgé comme Abraham puis Sarah. Vulnérable, 100 ans, 90 ans, stérile toute sa vie. Puis Dieu aime à démontrer que même si c'est impossible, c'est vulnérable, c'est fragile, c'est trop simple de démontrer sa puissance. On sert un Dieu tout-puissant. Amen. On sert vraiment un Dieu tout-puissant. Amen. Il y a un serviteur qui est arrivé, pas un serviteur, mais un centenier, qui est arrivé aux côtés de Jésus et puis qui a dit, « Dis un mot. » Il était capable de reconnaître qu'un mot que Jésus pouvait dire, puis son serviteur à la maison serait guéri. Il était capable de reconnaître la puissance en arrière du petite chose. Amen. Dieu est un Dieu tout-puissant. Il y a juste une chose qui peut nous rendre libres, c'est la parole de Dieu. On va aller à Romains 1. Je peux arriver à mon point encore, OK? Ça, j'arrive. Amen. Romains 1, et puis je vais lire le verset 16. L'apôtre Paul, il dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Amen. Merci Seigneur. « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. Même je lisais dans une autre écriture, « Le juste vivra par sa foi. » Puis ça, j'ai aimé ça. Parce que moi, je ne peux pas le croire pour vous. Je peux le croire avec vous, mais je vais m'accorder avec votre foi. J'ai déjà prié pour quelqu'un à un moment donné, puis à un moment donné, j'ai arrêté. Je disais, attends, moi, j'ai la foi que tu peux être guéri, mais toi, c'est quoi que tu crois au juste? La personne a dit, bien, moi, je crois que si je passe par l'opération, que Dieu peut mettre sa main, ça va bien aller. Bon, bien, j'ai dit, je m'accorde avec ta foi. Je ne peux pas lui demander de monter de stage puis venir à la mienne. Amen. Je ne veux pas imposer ma foi aux autres. Le juste vivra par sa foi aussi. Amen. Alors, je me suis accordée. Ça a très bien été. Ça a été assez relevé plus vite que prévu. Puis tout ça. Mais je ne peux pas imposer. Dire non. Là, tu vas croire que tu n'auras pas besoin de guérison. Ou tu vas croire que tu peux arrêter tes médicaments. Non. Je ne suis pas là pour dire au monde comment gros croire. Je suis juste là pour prêcher la parole qui va les rendre libres. Amen. Mais la parole, la personne était satisfaite par ça. Amen. C'est comme une personne qui va dire, moi je crois pour une auto. Oh, quand même qu'elle est vieille, en autant qu'elle ronne. OK. Tu n'en veux pas neuve, là, t'es sûr? Non. Bon, OK. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit ici, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Il dit, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Et on va juste aller à Jean 8, puis on va lire, on sait très bien le verset 32 par cœur, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Mais on va commencer à lire au verset 31. Il dit, et il dit aux Juifs, « Qui avait cru en lui? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. » Voyez-vous, il y a des gens qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont juste entendre à un moment donné quelque chose, puis des fois, ce n'est pas nécessairement la vérité de la parole de Dieu qu'ils ont entendue. Je vais donner un exemple. Il y a des gens qui arrivaient des fois et disent, « Bien, tu sais, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut mourir. Hein? Dieu, il vient comme un voleur. » Ça, ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Ça ressemble, c'est un verset de la parole de Dieu, mais sorti de son contexte. Parce que dans la parole de Dieu, quand Dieu, ça dit qu'il va venir comme un voleur, bien, ce que Dieu dit vraiment, c'est que dans les derniers jours, à la fin du monde, quand il va venir, il y a beaucoup de monde que ça va les prendre par surprise. Ils vont danser, ils vont se réjouir, puis ils vont oublier qu'il s'en vient. Pas les chrétiens, nous autres, on va le savoir, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Mais c'est pour ce contexte-là que ça dit qu'il vient comme un voleur. Il y en a d'autres qui me disent, des fois, quand ton heure a sonné, elle a sonné. Bien, j'ai dit, fais attention pour ne pas prendre l'avion quand le pilote, son heure a sonné, parce que ça va sonner fort. Parce que tout le monde, ça va sonner en même temps. Parce que tout l'avion va s'écraser. Tu veux dire? Non, il n'y en a pas de ça. Amen. Dieu, il est venu pour qu'on ait la vie. Il a envoyé Jésus pour qu'on ait la vie en abondance. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 91, « Je les rassasirai de longs jours. » Amen. Fait que si tu n'es pas rassasié, mange-en plus. Amen. « Je les rassasirai de longs jours. » Mais voyez-vous, ici, il dit... Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, à force de demeurer dans la parole, tu finis par voir clair, tu finis par voir la vérité. » Amen. Et il dit, « Vous êtes vraiment mes disciples, vous allez connaître la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. » Amen. Parce que la parole de Dieu, elle a cette puissance-là. Puis il y a beaucoup de gens qui la prennent, la parole de Dieu, et puis qui la font. Il y avait un couple, lorsqu'on était à l'école biblique aux États-Unis, il y avait l'école de la guérison tous les jours, du lundi au vendredi, et puis ils enseignaient sur la guérison. Je me suis tenue là pendant 2 ans. Amen. Et puis, il y a un couple qui ont amené un enfant. Puis l'enfant, il est comme inerte. C'est comme un légume. C'est comme si son cerveau ne dit pas à son corps de bouger. Ils ont été là toute la semaine, ils ont fait prier pour leur enfant. Et puis, ils sont retournés chez eux, ne voyant aucun signe, là, comme si quelque chose, au moins qu'il aurait levé le petit doigt, puis il aurait pu voir que c'est commencé. Mais eux autres, ils ont cru qu'ils avaient reçu, point final. Puis ils ont fait ce qu'ils avaient entendu toute la semaine. Ils n'ont confessé que la parole de Dieu. La Bible a dit que tu as ce que tu dis, que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Alors, ils sont arrivés chez eux, ils ont couché le bébé, ils ont fait comme d'habitude, mais ils ont choisi de faire une chose de plus. C'est que toutes les fois qu'il rentrait dans sa chambre, il prenait la Bible, puis lisait la parole de Dieu, puis la confessait de leur bouche. Puis si la mère elle venait, la grand-mère elle venait visiter, puis aller voir le bébé, il fallait qu'elle lise la Bible. S'il y avait un voisin qui venait, il fallait qu'elle lise la Bible. Ils ont dit, on va avoir ce qu'on dit, puis la parole de Dieu va agir comme un médicament, comme c'est écrit dans Proverbes 4, de 22 à 23 et 24. Que la parole de Dieu agit comme un remède. Amen. Alors, ils ont dit, on va administrer le remède à notre enfant. Une journée, ils sont rentrés dans la chambre, puis le petit bébé était debout, puis ba-ba-ba-bi-ba-ba-bo. La parole de Dieu, elle avait fait qu'est-ce qu'elle devait faire. Amen. Alors, ils ont réécrit, puis ils ont dit, merci Seigneur de nous avoir enseigné que la parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Elle agit comme un médicament. Brother Hagen lui-même, à l'école biblique où nous sommes allés, il était alité. C'était un homme qui était paralysé dans au lit. Alors, puis dans ce temps-là, là, les cassettes, puis les CD, puis tout ça, ça n'existait pas. Je parle de là, 60 ans passés. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis ses yeux dans la parole. Alors, il dit que ça y prenait des fois une demi-heure, juste pour tourner une page de la Bible, tellement que c'était un homme. Alors, il dit, je peux vous dire une chose, je la connaissais par cœur, qu'est-ce qu'il avait décrit sa page. Mais la parole de Dieu dit dans Proverbes 4, « Si tes yeux, amen, on va le lire, c'est trop bon, amen. » Dans Proverbes 4, ça dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, puis prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Puis garde ça dans le fond de ton cœur, c'est la vie. Puis le mot « vie », c'est la vie pour tout ton corps qui veut dire la santé. Et c'est la santé pour tout ton corps. Le mot santé veut dire remède. C'est le remède. C'est le médicament que tu as besoin. Alors, il dit juste de mettre mes yeux. Ça l'agit comme un remède. Puis un jour, il s'est levé, complètement guéri. Puis il a eu un ministère pendant près de 70 ans où il a prêché la foi partout sur la terre. Amen. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Alors, pourquoi qu'on fait ça tous les jeudis matin? Pour que vous l'entendiez, puis vous l'entendiez, puis on vous dit, regardez, lisez ça, on vous donne une cassette, écoutez ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que la foi vient d'entendre. On sait que si tu lis les versets qu'on te donne, tu prêtes tes yeux, ça va agir comme un médicament. On sait que si tu la confesses, c'est pour ça qu'on dit confesse, lis-les à haute voix, tu ne croiras personne d'autre. Plus que toi-même quand tu le dis. Alors, lis-le, confesse-le, vois-le, ça va agir comme un médicament. Écoute-le, la foi va venir. Amen. C'est pour ça qu'on fait ces choses-là, pour que la guérison puisse germer. Bon, là, je vais arriver à mon point. Amen. Il est temps parce que l'heure passe. Amen. Voyez-vous, dans la parole de Dieu nous dit que le semeur sorti pour semer. Qui connaît la parabole du semeur? Amen. Le semeur sorti pour semer la parole. Puis il y a la parole des fois qui tombait le long du chemin. Ça, c'est quand tu prêches au monde dans le monde. Ils s'en vont, puis 5 minutes après, ils l'ont oublié. Mais il faut continuer pareil. Il faut continuer pareil, parce que c'est une semence incorruptible. Elle va finir par germer. Il y a la parole qui tombe dans un endroit pierreux. Elle ne forme pas de racines, fait qu'elle se dépêche à pousser. Puis là, aussitôt qu'il arrive une petite tempête, le monde tombe les 4 fers en l'air. Et puis, il y a la parole aussi qui est étouffée par les soucis du siècle, puis ces choses-là. Et la parole aussi qui tombe dans la bonne terre, puis elle a produit. Amen. Alors, souvent, on va voir dans la parole de Dieu une parallèle, comment la semence, semer la parole de Dieu, c'est une semence. Et c'est ce que ça dit dans 1 Pierre 1, 22. 1 Pierre 1, verset 22. Ça dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors souvent, la Bible va comparer la parole de Dieu à une semence. Amen. Semer à l'intérieur de nous. La parabole du semeur. Aussi, dans Jean 15, ça va parler de la vigne, puis que si les branches restent attachées à la vigne, puis le vigneron va nous émonder pour qu'on porte du fruit, puis que si on demeure en lui et que sa parole demeure en nous, on peut demander ce qu'on veut, puis on va l'avoir. Souvent, on va entendre parler de semences et ces choses-là. Mais ce que je veux qu'on voit ce matin, c'est quelque chose de vraiment spécial. Dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, et puis je vais commencer à lire au verset 5. Ça dit, « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru ?» Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Écoutez bien verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je veux qu'on comprenne quelque chose ici de merveilleux. Voyez-vous, Apollos, il a prêché, on pourrait aller dans d'autres écritures où ce qu'on voit que l'apôtre Paul avait prêché, puis après ça, Apollos est arrivé, puis ils ont trouvé qu'il enseignait bien, puis ils l'ont envoyé à Éphèse, puis à Corinthe, puis à toutes ces places-là. L'apôtre Paul, il dit vraiment, il ne faut pas arrêter de semer la parole de Dieu. Il dit, un a planté, c'est moi. Puis il dit, Apollos, il est arrivé, puis il a arrosé ça. Mais il dit, je veux que vous compreniez une chose. Dieu, c'est lui qui a la puissance. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui va faire pousser qu'est-ce qui a été planté. S'il a été planté des semences, parce que la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible, des semences sur la guérison, puis arrosées à toutes les semaines, Dieu va faire croître, OK? C'est Dieu qui fait croître. Il fait croître quoi? Le fruit de qu'est-ce qui a été planté et arrosé. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il dit, celui qui a planté et celui qui vient arroser, ils sont égaux. Il n'y a pas un qui est plus fin que l'autre. Tout ce qu'on fait, c'est continuer à faire ce qu'on doit faire. Amen. Mais il dit, ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Il dit, pourquoi? Verset 9. Il dit, car nous, on est juste des ouvriers avec Dieu, mais vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Une autre traduction dit, vous êtes le jardin de Dieu. Hey, là, attendez un peu, il ne faut pas que je m'énerve. OK. Vous êtes le jardin de Dieu. Ça fait que quand Dieu nous regarde, nous, on est son jardin. Mais Dieu, il a besoin d'ouvriers dans son jardin. Alors, Dieu parle à des Paul puis des Apollos, des Chantal, amen. pour planter la parole, pour l'arroser, mais Dieu prend soin de son jardin. Dieu aime jardiner. La première place que Dieu a placée Adam et Ève, c'est dans un jardin où il n'y avait aucune pression. Mais l'homme a laissé rentrer la pression. Vous savez, ça c'est un autre sujet. On n'a pas été créé pour la pression. Merci que quand Jésus est venu, il a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. » Merci qu'il est venu nous redonner la paix. Mais je veux qu'on voit qui nous sommes en Dieu. On est le jardin de Dieu. Puis Dieu, il n'y a rien de mieux qu'il aime que de voir ce qui est planté dans notre jardin, puis ce qu'on passe notre temps à arroser, puis lui le fait croître. Quand on prête nos oreilles à la parole de Dieu pour la guérison, puis on met nos yeux dans la parole, puis on le lit, puis on le médite, puis on le parle, puis on l'entend. On passe notre temps à semer, puis arroser, puis arroser, puis arroser. Voyez aussi autre chose, qui est la puissance de Dieu, que Dieu va prendre soin de son jardin. Et je veux que quand vous vous en retournez chez vous, que vous dites « Seigneur, et que tu prends soin de ton jardin. » Je suis le champ de Dieu. Je suis le jardin de Dieu. Et Père éternel, j'ai prêté mes oreilles. Père éternel, je médite ta parole. Père éternel, ta parole, elle agit dans mon cœur. Pourquoi? Parce que tu prends soin de ton jardin. L'apôtre Paul, il dit, tout ce qu'on est, nous autres, c'est qu'on est des ouvriers qui travaillent dans le jardin. Même moi, je suis en adoration devant Dieu, devant sa parole, amen, de voir que ma job, c'est d'aller travailler dans votre jardin. Planter, arroser, arroser, planter, enlever les vieux microbes qui essayent de pousser, amen, enlever le chien d'ain, faire du sarclage, travailler dans votre jardin. Mais Dieu, aux yeux de Dieu, tu es le jardin de Dieu. On plante la parole, on arrose la parole, on jardine, mais Dieu fait croître. Dieu s'occupe de son jardin. L'apôtre Paul, il dit, moi j'ai planté, puis un autre arrosé. Mais Dieu, combien de vous aimez où le mais est? Mais Dieu, amen. Lorsque j'étais à l'école biblique, il fallait prêcher pendant 12 minutes. Parce qu'on est plusieurs étudiants, 2000 étudiants. Et il fallait prêcher pendant 12 minutes. Fait qu'il en faisait prêcher 4 un matin, puis il nous évaluait. Puis il fallait qu'on ait un début, puis une fin. Il dit, arrivez-nous pas, là, que vous avez fait un voyage en Floride, puis au bout de 11 minutes, vous êtes encore dans vos valises. Faites votre point. Amen. Puis faites pas rien que du babbling. On veut que vous passiez un point. C'est comme ça que j'ai étudié la parole de Dieu. Quand vous sortez du site, vous ne dites pas, c'était bon un matin, de quoi qu'à parler? Je ne sais pas, mais c'était bien bon. Non. Vous allez sortir d'ici, vous allez dire, je suis le jardin de Dieu. Et puis la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. Puis je prête mes oreilles, et puis la parole de Dieu, elle est plantée en moi. Puis quand j'arrive chez nous, je l'arrose. Et puis à part de ça, je nettoie mon jardin. Parce que plus je rentre dans la parole de Dieu, plus j'enlève le chien dent, plus j'enlève le doute, plus j'enlève les choses, plus je prends profonde mes racines. Mais merci Seigneur, que Dieu va faire croître la guérison, que Dieu va faire croître la prospérité, que Dieu va faire croître le salut, que Dieu va faire croître la délivrance au nom de Jésus. Amen. Quand on sait ce qu'on est, merci Seigneur, il n'y a plus de problème là. Amen. Merci Seigneur. Continuellement, la parole de Dieu elle nous montre comment c'est la plus grande semence. Amen. C'est la puissance de Dieu. Il faut la semer, la parole de Dieu. Il faut prêter nos oreilles. Amen. C'est pour ça que partout dans Proverbes, ça dit « prête tes oreilles, mets tes yeux, écoute, amen, médite ». C'est pour ça que Dieu, quand il parle à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si tu entreprends d'être guéri, c'est ton entreprise. Amen. Si tu entreprends de faire de l'argent dans le business, c'est ton entreprise. Si tu entreprends que ta famille soit sauvée, c'est ton entreprise. C'est ce que tu entreprends. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. On plante, puis on arrose, puis on va sarcler, puis on fait sûr qu'on enlève. C'est pour ça qu'on arrive avec une première raison pourquoi que ça nous démontre que c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri aujourd'hui, puis une deuxième raison, puis une troisième raison pourquoi, pour enlever les vieilles cochonneries de religion que le monde et la religion peut nous avoir mis dans la tête. « Ah, tu sais, t'es venu au monde pour un petit pain. » Arrache ça! Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Dieu veut qu'on ait la vie, puis la vie en abondance. Amen! Pas juste pour nous, mais pour être riche pour Dieu aussi. Amen! Gloire à Dieu! Vous êtes le jardin de Dieu. Puis Dieu aime jardiner. Alors, vous savez, quand vous allez chez le médecin ou le chiro ou quoi que ce soit, puis il vous dit, on va se revoir la semaine prochaine, parce que pour lui, c'est déjà acquis que tu vas être là la semaine prochaine, la semaine d'après. Ou le médecin va dire, je te reverrai dans 10 jours. Puis là, dans 10 jours, l'antibiotique n'a pas fait effet, bien, on va en prescrire un autre. Celui-là, ça devrait être mieux. Il ne sait pas plus que toi. Excusez. Bien, des fois, il ne sait pas plus. Amen. Parce que tous les cas sont différents. Pas parce qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais parce que tous les cas sont différents, bien des fois. Mais voyez-vous, autant lui veut nous revoir ou les autres veulent nous revoir, je peux vous dire une chose, Dieu veut vous revoir aussi. Dieu veut vous revoir. Il veut vous revoir dans sa parole. Amen. Il veut vous revoir constamment. Pourquoi? Parce que vous êtes son jardin. Moi, ma belle-mère, elle faisait tout un jardin. Puis c'est pas parce que c'était une femme qui était agile, mais c'était une femme qui était très travaillante. Puis elle avait tout un jardin. Amen. Puis elle en prenait soin de son jardin. Et puis quand elle m'envoyait, moi, la petite fille de la ville, dans son jardin, c'était pas drôle, par exemple, elle dit, veux-tu aller chercher des cocons? OK. Là, je m'en allais dans le jardin, parce que moi, j'ai toutes les bébites et les affaires qui se traînent à terre, là, tu sais, là. Fait que là, je regardais autour des feuilles pour savoir si je verrais un cocon en quelque part, tu sais. Jusqu'à temps que j'entende, parce que là, mon beau-père puis tous ses garçons étaient sur le perron, puis ils disaient, « Chantal, t'es dans le champ de patates! Change de rangée! Oh, OK, passe par-dessus. Fais attention à mes piments! OK, OK! Je ne l'avais pas l'affaire, mais pas du tout, hein? Pas du tout. Et puis, mais ma belle-mère, elle aimait son jardin. Elle aimait jardiner. Puis quand elle nous regardait aller dans son jardin, des fois, elle arrivait et elle disait, viens avec moi. Et puis là, elle sortait une carotte. Je vais toujours m'en rappeler parce qu'une fois, elle a sorti une carotte, puis il y avait un petit verre. Le verre était jaune-orange. Après la carotte, j'ai dit, ah! Elle dit, jamais, depuis que je fais un jardin, j'ai vu un verre dans une carotte. « Faut la bête, tu sais là, pour le voir! » Mais ma belle-mère, elle aimait prendre soin de son jardin. Elle aimait nous montrer les choses, puis comment... Et puis, vraiment, c'était intéressant, à un moment donné, quand j'ai commencé vraiment à aller voir ça. Je trouvais ça intéressant pour elle, pas pour moi, là, mais pour elle. Je trouvais ça intéressant de voir que, ah, oh, comme ça, quand je vais à l'épicerie, ça a commencé par là. Ah, oh, OK, OK. Dieu aime son jardin. Vous êtes le jardin de Dieu. Laissez pas n'importe quoi être semé dans votre jardin. Amen. Parce qu'on sait qu'il y en a un qui aime à s'introduire dans les jardins. Amen. Il s'est introduit. Il s'est introduit dans Genèse. Faut pas le laisser s'introduire. Protégez votre jardin. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Arrosez, semez, puis Dieu va faire croître. Moi, ce que je voulais vraiment laisser comme message ce matin, c'est quand vous en allez chez vous, vous dites, « Seigneur, je suis ton jardin. » Puis la parole de Dieu est en moi. Tu fais croître. Tu fais croître. Puis on sait très bien que dans le jardin, une petite semence, des fois, je regardais ça, juste une petite semence, Et on voyait un gros plan, puis des gros piments commençaient à arriver. C'est la même chose. Vous êtes le jardin de Dieu. Juste une petite semence de la parole de Dieu que vous nourrissez, puis que vous nourrissez, puis que vous arrosez, puis que vous prenez soin, puis que vous réclamez, puis vous la regardez. Votre semence. Madame Paulus, elle allait dans son jardin, puis bon, vous dire de quoi, aussitôt qu'il y avait une petite affaire qui poussait à côté, qui n'avait pas rapport, elle arrachait ça. Puis elle mettait de l'eau, puis elle enterrait comme il faut ses choses, puis elle plaçait son jardin comme il faut. Si vous prenez soin de votre jardin, Dieu fait croître. C'est la guérison qui va pousser. C'est la paix qui va pousser. La prospérité, la direction de Dieu, la liberté qui va pousser. Amen. Vous êtes le jardin de Dieu. Amen. Ce matin, on vient d'arroser. Arroser les semences que vous avez reçues. Maintenant, commencez à voir. Voyez-vous, ce n'est pas juste de la méditation transcendantale, là, ou je ne sais pas quoi. Là. Non, c'est la méditation de Chantal. Non, non, c'est des jokes. C'est la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit « Méditez la parole de Dieu ». Amen. Tu la médites. Tu t'en vas chez vous, puis tu le vois, ton jardin. Tu dis « Je suis le jardin de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Le jardin de Dieu. » Puis Dieu vient, puis travaille avec la semence qui a été semée en moi, puis que je continue d'arroser. Puis Seigneur, je sais que tu fais croître. Je le sais que tu fais croître, parce que ta parole... Puis retournez dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 3, ouvrez-la à la Bible, puis dites, Seigneur, pasteur Chantal, elle a planté, puis elle arrose, puis elle arrose, puis moi, je continue d'arroser, puis de sacler mon jardin. Seigneur, je vois la guérison croître. Parce que tu fais croître. Tu n'es pas un homme pour mentir ni pour te repentir. Ce que tu dis, quand tu parles, la chose, elle arrive. Quand il l'ordonne, elle existe. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Dieu va faire croître. Dieu va faire croître. On a arrosé ce matin. Je veux que vous partez avec cette idée-là. Dieu va faire croître à l'intérieur de moi ce qui a besoin de croître parce que je prête mes oreilles à la parole de Dieu. Amen. On va se lever debout. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous savez, on donne toujours l'opportunité le jeudi matin que si vous avez besoin de l'imposition des mains pour quoi que ce soit, on peut prier sur vous. Pasteur Réal et moi, on croit fermement que la parole de Dieu